ma première réaction, c'est une immense reconnaissance pour les libraires et les professionnels du livre qui m'ont décerné ce prix. Vous savez, si je regarde mon histoire, le dernier prix que j'ai reçu, c'est un prix de littérature quand j'étais en quatrième. Et ma professeure de français m'avait offert un très beau livre de Charles Dickens, Oliver Twist. Donc depuis, je n'ai plus eu de prix. Mais celui-là, c'est vrai, me touche beaucoup parce que il couronne un livre qui est un livre très personnel. Et là, pour la première fois que je me mets un peu à nu, où je parle de mon itinéraire spirituel personnel, et bien voilà, il semble que cela a touché le lectorat, et donc je suis très touché moi-même de recevoir ce prix.
Alors qu'est-ce qu'il nous enseigne ce livre? Qu'est-ce qu'il faut retenir?
Ce qu'il faut retenir, c'est peut-être qu'il ne faut pas désespérer, jamais désespérer de faire la rencontre de la rencontre. Pour moi, la rencontre de la rencontre, c'est la rencontre que j'ai eu l'immense bonheur de faire avec le Christ. À l'aube de mes 50 ans, j'étais un chrétien tiède avant, j'étais un chrétien culturel, j'étais baptisé, mais je vivotais ma foi. Et puis, à l'occasion d'un reportage dans un monastère et d'une promenade dans un sentier forestier, j'ai vécu la rencontre de manière très forte et très intériorisée en même temps. J'ai été visité par la présence silencieuse de quelqu'un qui s'est révélé être le Seigneur. Et depuis, c'est vrai que ma vie a sans doute profondément changé, même si moi, en apparence, je suis toujours le même. Mais c'est vrai que j'ai été retourné, j'ai été converti à la prise de conscience que j'étais habité par une présence. Je l'avais oublié pendant des années, des décennies, que j'étais habité par la présence du Christ. Et il m'a fallu ce moment de rencontre là pour que je me sente aimé, que je me sente accompagné, que je me sente plus seul. Je ne suis plus seul depuis que j'ai fait cette rencontre un matin d'hiver il y a 5 ans.
Et alors c'est cette rencontre qui vous a converti au silence ?
Voilà, parce que je pense que le silence, d'abord, c'est le langage de Dieu. Vous savez, dans la Bible, les prophètes entendent Dieu souvent dans un fin silence. Hein. Donc, pour écouter ce fin silence, il faut soi-même faire silence. Et puis, je crois aussi que Dieu est attiré par le silence des hommes. C'est dans le silence qu'il vient à notre rencontre. En tout cas, c'est dans le silence qu'il est venu à ma rencontre il y a 5 ans. Au moment où je ne l'attendais pas. Donc pour moi, le silence est à la fois un langage divin, et c'est un langage humain. C'est le langage par lequel moi, je peux entrer en conversation avec le Seigneur. Et l'une des principales conséquences de cette conversion au silence, c'est qu'il ne se passe plus de journée sans que je la commence le matin par 20 minutes de prière, silencieuse, seul à seul, devant une icône, et en méditant les textes liturgiques du jour. Mais je ne peux pas vivre une seule journée sans vivre ce temps fort-là, sans vivre cette rencontre. C'est comme un rendez-vous d'amour. Voilà, je ne peux pas m'en passer. Et chacune de mes journées, alors qu'elles vont, elles commençaient par ouvrir le bouton de ma radio, et bien maintenant, elles commencent par ouvrir grandes mes oreilles pour percevoir le silence de la présence silencieuse du Seigneur.
Il vous permet véritablement d'avancer dans votre vie, de cheminer spirituellement, ce silence ?
Oui. Je crois que ça me permet de grandir en humanité. Je crois que nous vivons dans un monde où on court beaucoup, où il y a beaucoup de bruit, où on ne prend pas le temps de rencontrer l'autre. Et moi, je fais ce métier de journaliste depuis 33 ans parce que j'ai vraiment le goût de la rencontre. Mais je dirais que depuis ma conversion au silence, depuis la rencontre sur ce chemin forestier des Ardennes belges, j'ai encore plus de goût à la rencontre. C'est-à-dire que je veux que chaque rencontre s'opère, s'effectue, se réalise sous le regard du Seigneur. Donc je suis très exigeant dans mes rencontres. J'essaye en tout cas. Je n'y parviens pas tous les jours parce que moi aussi je suis victime du bruit, de la fatigue, de la lassitude. Je suis victime des bruits en moi et je ne suis pas toujours disponible à l'écoute de l'autre. Mais j'essaye quand même chaque jour et notamment dans mes fonctions de rédacteur en chef de donner du temps, pas seulement au temps, mais de donner du temps à l'autre pour l'écouter. Je suis devenu aussi, sans doute grâce aux moines que je fréquente beaucoup dans leur monastère, un écoutant. J'essaye de devenir un écoutant. Voilà, je dirais que ma conversion au silence ne m'a pas enfermé dans une fuite du monde, ne m'a pas enfermé dans ma tour d'ivoire, mais m'a plutôt ouvert la fenêtre, me donne envie d'aller davantage encore à la rencontre du monde, des hommes, des femmes qui sont autour de moi, et pour essayer de créer avec eux des liens vrais, des liens authentiques, des liens si possible de fraternité.
Est-ce qu'en écrivant ce livre, vous souhaitez inciter vos lecteurs à rechercher le silence eux-mêmes, à se convertir au silence, selon votre expression ?
Oui, j'invite ceux qui liront ce livre, ceux qui l'ont déjà lu, à découvrir ce qu'il y a de plus sacré, je crois, dans la vie d'un homme ou d'une femme, c'est sa liberté intérieure. La liberté intérieure. On parle souvent du droit à la liberté, du combat pour la liberté, et Dieu sait qu'il y a des peuples à la surface de notre planète qui souffrent de manque de liberté, et leur combat est juste et il faut les soutenir. Mais dans nos sociétés occidentales, assez nanties, même si une crise terrible frappe un certain nombre de nos compatriotes et de nos contemporains, mais néanmoins, je crois qu'il y a une liberté qui est très menacée aujourd'hui, c'est la liberté intérieure. La liberté intérieure, c'est comme une citadelle à défendre, parce que c'est dans cette liberté intérieure que l'on apprend à devenir soi-même, que l'on apprend à devenir ce pour quoi l'on est appelé, et c'est aussi dans cette liberté intérieure que l'on peut faire la rencontre de toutes les rencontres, c'est-à-dire de celui qui nous donne notre liberté la plus totale, c'est-à-dire Dieu.
Et vous dites dans votre livre que vous essayez de pratiquer le journalisme contemplatif. De quoi s'agit-il exactement ?
Alors, le journalisme contemplatif, c'est pour moi essayer de réaliser trois objectifs. Le premier, c'est de faire un journalisme qui prenne son temps, hein, qui ne soit pas toujours haletant, essoufflé par la recherche du scoop ou de l'information qui va concurrencer un autre média. Je crois qu'il faut qu'on reprenne du souffle, qu'on se redonne du temps pour faire de l'enquête profonde, pour aller à la rencontre vraiment des gens, enfin, vraiment qu'on donne matière à réflexion par des sujets vraiment approfondis. La deuxième chose, c'est que souvent les journalistes sont assimilés à des annonciateurs de mauvaises nouvelles. Je crois aussi que le journaliste chrétien doit être un annonciateur de bonnes nouvelles. Tout n'est pas foutu dans notre monde, tout n'est pas noir, tout n'est pas voué à l'échec. Il y a aussi de belles choses qui sont réalisées ici ou là par des hommes et des femmes, et c'est à nous aussi de les promouvoir, de les faire connaître. Et puis enfin, le journalisme contemplatif, c'est le journalisme qui a le goût de la contemplation, de l'émerveillement, c'est-à-dire de retrouver, de faire valoir les beautés de notre monde, les beautés de notre humanité, et de ne pas seulement montrer que les choses abîmées, la laideur, la vulgarité. Je crois que nous ayons aussi le souci de montrer le monde tel qu'il est, avec en effet ses fardeaux, avec ses noirceurs, mais aussi de montrer sa beauté.